Moi, c'est Charlie.
Donc, nous accueillons Charlie et
Guillaume.
Et Guillaume. Et donc, vous faites partie des chefs. Les chefs, c'est quoi? C'est une association?
C'est une fédération de différents pôles qu'on retrouve dans toutes les villes universitaires francophones de Belgique. On a des cercles à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, dont nous venons tous les deux, Mons, Charleroi, Liège et Namur.
Et il y a aussi un pôle qui n'est pas dans une ville spécifique, qui s'appelle Identique, et qui traite des questions trans, cuir et intersexe.
Et intersexe, ok. On a justement parlé de l'intersexualité tout à l'heure. Donc,
avec Caster Semenya.
Ouais. Oui. Déborah a fait toute une chronique. Donc voilà, donc moi je suis contente de vous accueillir parce que je trouvais ça important de donner la parole à votre association aussi. Et donc, j'ai prévu quand même toute une série de questions. Et la première, c'est peut-être la question de base, mais c'est quand on parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre, on parle de quoi? Si vous deviez définir, si vous deviez donner des définitions, en tout cas, si je dis orientation sexuelle, vous représentez ça comment?
C'est juste le genre qui va attirer une personne. Ça peut être femme, homme, personne non binaire. Il faut savoir que ce n'est pas un choix, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. On ne choisit pas d'être hétéro, on ne choisit pas d'être homosexuel ou bisexuel. Les identités de genre, c'est pareil. On ne choisit pas d'être une personne transgenre comme on ne choisit pas d'être une personne cisgenre. Donc transgenre, cisgenre, je sais pas si je dois.
Sinon, je crois que c'est intéressant de définir parce qu'il y a tout un vocabulaire comme cuir et tout ça. Donc peut-être chaque fois que vous utilisez un terme, le définir comme voilà. Comme ça, on sait de quoi on parle.
Donc cisgenre, c'est une personne qui va s'identifier au genre auquel on l'a assigné à la naissance. Donc typiquement, c'est si un bébé naît avec des organes génitaux pénis, testicules, on va dire c'est un petit garçon. Et la personne, toute sa vie, même si peut-être à un moment, elle a pu se poser des questions, elle va dire, en fait, oui, moi, ça me convient. On m'a dit que j'étais un petit garçon, je suis un garçon et plus tard un homme. Et une personne transgenre, c'est quelqu'un qui va s'identifier à un autre genre que celui auquel on l'a assigné à la naissance. Donc, par exemple, cette même personne qui a un appareil génital dit masculin peut s'identifier en tant que femme ou en tant que personne non binaire.
Ok, donc là, on parle d'identité de genre.
Oui, c'est ça.
Ok, très bien. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on parle de stéréotypes de genre. Donc, est-ce que tout ça, est-ce qu'on est confronté... Enfin, c'est quoi les stéréotypes de genre? On en a un petit peu parlé, mais vous pouvez aussi les définir. Est-ce qu'on est confronté à ça dans son quotidien?
Je pense que vous en parliez juste avant. C'est l'ensemble des choses qu'on attend d'une personne qu'on définit comme de genre féminin ou masculin. Et
je parlais en tant que personne LGBT plus. Même si ils ont des communautés, une communauté qu'on pourrait croire plus libre, en fait, les stéréotypes de genre sont bien sûr présents aussi dans la communauté LGBTQIA+. Par exemple, une femme très féminine qui va s'identifier comme lesbienne, on va lui dire, mais t'es pas lesbienne, toi, parce que les lesbiennes, elles ont les cheveux courts, elles se laissent pousser les poils. Les personnes transgenres aussi, on projette énormément de stéréotypes de genre sur elles. Par exemple, on va attendre d'un mec trans qui soit super masculin, qui veuille une barbe, qui porte pas de rose, qui aime des trucs, des activités dites super masculines, genre le foot, alors que pas du tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer, c'est certains mecs trans en disant, je suis un mec trans, du coup, je vais jouer à fond la carte de la masculinité parce que c'est ce qu'on attend de moi. Mmh. Et au final, on va se sentir mal parce que on surjoue un rôle qui n'est pas le nôtre. Voilà.
Ok, donc c'est vraiment toutes les attentes de la société par rapport à ces codes. C'est une façon de mettre aussi dans des boîtes, de cataloguer, de dire ok, c'est comme ça que ça fonctionne et
tout à fait.
Qui de se rattacher à quelque chose de plus connu, en tout cas, pour certaines personnes.
C'est pour ça que là tout de suite vous parliez du terme queer et certaines personnes justement refusent ces boîtes et refusent de se caser dans une de ces boîtes et peuvent par exemple se définir queer, qui est qu'on pourrait définir comme une personne qui rejette toutes les boîtes, autant au niveau identité de genre qu'au niveau orientation sexuelle.
Mmh. Ok. Mais quand on est queer, on n'est pas hétérosexuel. C'est toute la notion hors hétérosexualité. C'est un peu ça la définition de
ouais,
dans
queer, la version, dans la version anglo-saxonne. Ouais,
ça dépend de la définition
ouais,
queer, ça, évidemment.
Ouais, ça dépend où on se positionne. Quoi. Oh,
mais pourquoi, voilà, moi je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas, au lieu de dire LGBTQIA+, parce que attention, on vient de rajouter le A, on pourrait encore rajouter le P de pansexuel, le P de polyamour, donc P au carré. Ouais. Enfin voilà, on pourrait encore continuer. Et donc je me demande pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas queer tout court.
Il y a des gens qui sont pour, et il y a aussi eu d'autres tentatives de noms un peu parapluie comme ça, mais c'est tellement ancré, en tout cas chez nous les francophones, que ça risque d'être difficile à changer.
Et surtout qu'en plus, quand on parle de genre aussi, c'est pas de genre, mais enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais qu'en fait, quand on ne dit pas toutes les lettres, certains s'en offusquent aussi d'ailleurs, parce que moi j'ai tendance à dire LGBT+, faisant de la radio, si je dis LGBTQIA+, à chaque fois, ça rallonge un peu, et donc c'est vrai que souvent, on rassemble en LGBT, en se disant que quand même, finalement, tout le monde se retrouve dedans et qu'on comprend bien que... Et donc là aussi, il y a ce problème de lettres qui vont... et de non-acceptation si on raccourcit les choses.
Mm-hmm. Oui, c'est souvent une question de vocabulaire aussi. Hein. C'est comme on parle souvent, ces derniers temps, moi j'entends souvent parler de binarité, de genre fluide, et donc je me dis, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans la communauté, qu'est-ce que ça représente, ces mots-là, quoi? Voilà, on est en binaire, on est en mode fluide. Vous pouvez un peu nous expliquer tout ça?
Donc la binarité, c'est à partir du principe qu'il n'existe que deux genres, d'où le binaire. C'est homme et femme. Mais du coup, ça se rattache à tous les stéréotypes de genre dont on vient de parler. Et aussi, c'est partir du principe que le genre, c'est quelque chose de très statique, alors que pas forcément... il n'existe pas que deux identités de genre, mais par exemple gender fluid, c'est une personne qui va, selon la journée qu'on est, selon ses humeurs, va sentir plus homme ou plus femme, et qui va un peu jouer avec les codes, les stéréotypes de genre. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui de prime abord on va l'identifier comme homme, par exemple en disant cette personne a une musculature développée, elle a la barbe, donc c'est un mec. Et il va pouvoir mettre, par exemple, du maquillage, quelque chose qui est identifié comme très féminin. Et il peut jouer avec ses codes et se dire gender fluid. Après, moi, je ne m'identifie pas comme gender fluid, donc j'ai toujours un peu de mal à parler pour ces personnes. Okay. Parce que chaque ressenti est différent aussi. Les identités de genre sont tellement nombreuses. Que je veux dire, il y a... Oups, il y a le micro. Oh. je me suis dit... Enfin, il y a beaucoup d'identités de genre différentes, et enfin, ça, c'était vraiment selon chacun.
Okay.
Et après, pour rebondir sur la binarité, c'est un truc qu'on retrouve pas uniquement dans les identités de genre, mais même pour l'orientation sexuelle, on a tendance à voir d'une manière très binaire homo d'un côté, hétéro de l'autre. Et à même vouloir essayer de classer les personnes qui se définissent comme bisexuelles ou pansexuelles dans l'une de ces deux cases, alors que autant l'identité de genre que l'orientation sexuelle, c'est plutôt un spectre, et on peut se placer soit à l'une extrémité, soit entre ces deux extrémités, plus proche de l'une, plus proche de l'autre. Et voilà.
Ok, Faisa.
Mais moi j'avais une question par rapport aux personnes fluides. Donc moi j'apprends, hein. Je ne suis pas tout à fait dans le jargon, mais... parce que vous dites, oui, on peut se réveiller le matin, on se sent femme, et puis le soir, se sentir homme. Mais est-ce qu'on est obligé de se définir? Par exemple, voilà, moi, je suis une femme, je me sens femme. Mais voilà, si un jour, j'ai envie de lâcher des blagues grivoises, enfin, de m'attribuer des critères qu'on attribue aux hommes, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, faire preuve, ceux qu'on attribue d'autorité ou de, je sais pas, de virilité, mais dans le sens caractériel ou du terme, est-ce que pour autant je dois me définir comme une personne fluide?
Non, absolument pas. En fait, tu peux t'identifier complètement en tant que femme et avoir des traits, entre guillemets, masculins, parce que justement, c'est pas... c'est ça qu'on appelle, c'est fluide. En fait, comme Guillaume disait, c'est plutôt un spectre, et on va dire il y a le spectre je suis homme ou femme, et entre guillemets tout ce qui est entre les deux, donc ça c'est un curseur. Et en dessous, on peut rajouter le spectre féminité, masculinité. On peut être un homme très féminin, on peut être une femme très masculine. Et ce n'est pas pour ça que ton identité de genre en tant que femme va être remise en question.
Mais c'est ça. Est-ce que ce n'est pas trop jouer le jeu de la société que de vouloir attribuer des termes ? Parce que... une femme, par exemple, qui est dans une position de pouvoir au sein de son entreprise, on dira qu'elle est masculine parce qu'elle est autoritaire, parce qu'elle laisse rien passer, parce qu'elle est exigeante avec son personnel, parce que peut-être elle va se couper les cheveux, elle va adopter même des codes vestimentaires masculins, parce que ces codes-là font qu'elle sera mieux respectée. Et puis quand elle arrive à la maison, eh ben, elle sera elle-même avec tous les codes féminins que la société lui apporte. Mais le fait de vouloir tout nommer et tout justement caser, est-ce que ce n'est pas faire le jeu de ce que la société attend ? Est-ce qu'on ne peut pas juste être une personne nuancée qui peut adopter certaines positions et postures en fonction du contexte dans lequel elle est, tout simplement ?
Oui, ça, je pense... Moi, là, je vois deux choses que tu dis. Il y a ce truc du... le souci, c'est qu'on va dire, par exemple, une personne autoritaire... ce sera forcément un trait masculin. Donc ça, c'est très sexiste. Et après, ce que tu dis sur le besoin de nommer les choses, c'est un débat qu'il y a beaucoup dans la communauté LGBT, même enfin, dans la société en général. Mais c'est parce que les personnes ne se rendent pas toujours compte à quel point ça peut faire du bien de mettre un mot sur ce qu'on ressent. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appellations différentes. Et je peux comprendre que parfois, ça peut prêter à confusion quand on ne le vit pas soi-même.
Merci.
Et moi j'ai une question aussi par rapport, mais justement au chef et au fait donc que c'est une fédération de cercles d'étudiants LGBT plus. Et quel est le besoin derrière la constitution de ces cercles ? Est-ce que c'est un besoin de réagir face à une discrimination de l'UNIF, de la haute école, etc. Est-ce que c'est un besoin communautaire de se retrouver ? Est-ce que c'est un besoin d'agir parce qu'il y a encore du boulot ? C'est quoi la motivation de base de la création de ces cercles ? Qu'est-ce que vous y trouvez ?
Je pense qu'il y a pas mal des choses dont vous avez parlé qui s'y retrouvent, mais c'est surtout, c'est notre action principale, sociabiliser les jeunes LGBT et pouvoir se retrouver avec des gens, entre guillemets, comme nous, qui ont les mêmes expériences que nous, qui ont vécu les mêmes épreuves que nous, avec qui on peut discuter sans spécialement devoir avoir les filtres qu'on a dans la société la plupart du temps. C'est vraiment quelque chose que les jeunes recherchent et dont les jeunes ont besoin. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que le cercle m'a apporté. C'est quelque chose qu'on a assez peu en tant que jeunes LGBT. On a assez peu de représentation dans les médias et tout ça. Et du coup, pouvoir se retrouver entre nous, ça peut sonner un peu sectaire d'un certain point de vue, mais c'est vraiment un besoin qu'on a d'avoir des gens qui ont vécu les mêmes épreuves que nous, autour de nous.
C'est retrouver un safe place, en fait. C'est un endroit où on peut être totalement soi-même. Et ça permet à certaines personnes aussi de s'épanouir et d'accepter mieux leur sexualité ou leur identité de genre, quoi. C'est vraiment important d'avoir des endroits où on peut vivre la personne qu'on est, en fait.
Bah surtout à cet âge-là, en fait, on quitte l'adolescence, on rentre dans l'âge adulte, on est vraiment déjà dans un entre-deux. On dit toujours que l'adolescence, c'est la galère, mais cette période d'entre-deux, c'est quand même assez c'est aussi assez phénoménal. Et ça existe depuis longtemps, parce que voilà, on se dit... je me souviens, quand je suis rentrée à l'UNIF, 1992, et je ne me souviens pas d'avoir vu, en tout cas...
Ça dépend des villes.
Il existait déjà à Bruxelles. Hein,
ouais, hein,
c'est ça.
À Bruxelles. Non, hein. Si, si.
35 ans.
Si. Ah si, 35 ans. Oui,
celui de Louvain-la-Neuve est beaucoup plus récent. Ça fait que 9 ans, je pense.
Ouais, c'est ça. Le tout premier cercle, c'était à Bruxelles et c'était il y a 35 ans. Mais les chefs, en tant que fédération, c'est beaucoup plus jeune. Je ne me souviens pas de la date exacte. J'ai 2013 en tête, mais je dis peut-être des bêtises.
Non, je pense que c'est plus ou moins dans ces eaux-là.
Ouais. Ouais. Mais sinon, les cercles en tant que tel, le premier à Bruxelles, ça s'appelait le cercle homosexuel étudiant. C'est pour ça les chefs. Voilà, ouais, c'est ça.
À l'ULB.
C'est ça, voilà, exactement.
Ouais. Et pourquoi Louvain-la-Neuve, il y a 9 ans, vous avez un peu l'histoire de...
Oui, en fait, c'est des gens qui venaient du Chêne, donc du pôle de Namur, qui voulaient en créer un Louvain-la-Neuve, comme Louvain-la-Neuve, c'est une grosse ville étudiante. Et voilà. Et c'est ça, en fait, le principe des pôles, c'est que ce sont vraiment des jeunes personnes LGBTQIA+, qui vont mettre en route le pôle, le fonder, le gérer. On a des comités qui vont gérer les activités qu'on fait. Et bien après, il y a les membres qui viennent, tout ça. Et enfin, on doit un peu gérer le budget, comment ça s'appelle, le financement, tout ça. Faire la pub, s'assurer qu'on a une place au stand à la rentrée pour que le plus de personnes possible puissent nous voir. Voilà. Il y a vraiment une gestion pour que les pôles puissent vivre. Parce que une des devises des chefs, c'est par les jeunes, pour les jeunes. Quoi.
Ouais, ce que j'allais dire, vous êtes reconnue en tant qu'organisation de jeunesse. Oui. Je pense que c'est ça. Ça, hein, vous avez...
Oui.
Et donc forcément, mais ça veut dire qu'il y a une limite d'âge aussi. À un moment donné, est-ce que c'est 25 ans ou c'est 30
ans ? C'est 30 ans.
30 ans, c'est ça.
Ah, c'est bien, voilà. C'est mieux que la STIB et la SNCF.
Oui, tout à fait. Est-ce que des anciens, mais restent, ils prennent quelque part, continuent à apporter quelque chose au cercle ou même au chef de manière plus large ? Ou est-ce que quelque part, à la fin de ces études, la majorité des personnes passent à autre chose et c'est juste une étape dans la vie ?
On a encore... En tout cas, à Louvain-la-Neuve, plusieurs travailleurs et travailleuses qui ne sont plus étudiants ou même qui n'ont pas été étudiants, mais juste des gens qui avaient le même besoin que les étudiants de se retrouver et qui vont dans la ville la plus proche.
Ok. Et une question peut-être plus large aussi. Au niveau de la législation belge, en tout cas, je pense qu'il y a eu pas mal d'avancées. Donc, on va peut-être pas décrire ça maintenant parce que voilà, je pense que c'est assez connu, le mariage, l'adoption, il y a eu plein de lois, le nom de famille et tout ça. Et il y a encore du boulot, hein, notamment par rapport à tout ce qui est transidentité et tout ça. Il y a encore du boulot. Mais pour en revenir quelque part à la thématique d'Esperanza de cette année, qui est
des masquons.
J'ai toujours envie de dire des voilons, moi, mais bon, des masquons de nos privilèges. Est-ce que vous estimez que en tant que LGBTQIA+, nous sommes des privilégiés aujourd'hui en Belgique par rapport à d'autres pays, par exemple.
Par rapport à d'autres pays, oui, tout à fait. Il reste de l'homophobie, de la biphobie, de la transphobie en Belgique. Mais par exemple, ce n'est pas illégal d'être homosexuel par rapport à d'autres pays.
C'est vrai qu'il y a des pays où le simple fait de s'afficher comme une personne LGBTQIA+, est passible de peine de prison, voire pire. Mm-hmm. Donc, rien que pour ça, on pourrait se considérer privilégié. Mais effectivement, il y a encore beaucoup à faire, même chez nous. Et c'est pas parce que c'est pire à côté qu'il faut accepter ce qu'on a chez nous.
Qu'il faut se contenter de ce qu'on a.
C'est sûr,
que le combat n'est pas fini. En tout cas, il faut rester vigilant pour ne pas perdre ce qui a été acquis aussi. Quoi.
Exactement.
D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre venue. C'était vraiment chouette de vous avoir avec nous.
On vous invite. Oui.
Juste une question comme ça, mais voilà, encore une parenthèse. Est-ce que vous avez des jeunes afrodescendants qui viennent dans vos cercles ? Parce que chez nous, c'est très très tabou. Donc, est-ce qu'ils s'expriment plus près de vous ? Est-ce qu'ils se dévoilent plus ?
On n'a pas beaucoup de personnes racisées qui viennent. Et c'est justement un des soucis qu'on aimerait bien, enfin, en tout cas que j'aimerais personnellement lever au sein des chefs. C'est que c'est un milieu majoritairement blanc. Et en décembre, l'année dernière, il y a la coordinatrice de la Rainbows. Je connais juste son prénom, c'est Rachel.
Ouais, c'est Rachel. Qui
nous a fait un atelier sur les privilèges, justement. Et elle disait oui, que c'est vrai que les chefs ont cette identité d'être majoritairement blancs. Et on aimerait changer ça parce que, du coup, on se dit que les personnes racisées n'osent pas venir parce qu'on a cette image de c'est pour les blancs. Et je pense qu'il faudrait y remédier. Parce que c'est important que les personnes non blanches puissent parler de leur sexualité, de leur identité de genre. Voilà.
Il faut quand même avouer que beaucoup d'associations LGBT sont, c'est vrai, essentiellement blanches. Peut-être.
Oui,
après, il y a Meraba. Je ne sais pas si vous connaissez Meraba.
Si, il y a Meraba.
Il y a Meraba, l'accueil des personnes nord-africaines, LGBT nord-africaines.
Oui, c'est ça.
Y avait aussi, justement, à la Rainbow, il y avait des soirées, justement, aussi... plus Balkan, je sais plus.
Oui, il y a Massimadi.
Voilà,
c'est un festival aussi. Voilà,
c'est le festival LGBT des diasporas africaines.
Ouais. Donc voilà. Sinon, les Rainbow Cops aussi, les policiers.
Mais ils sont très blancs, eux.
Ils sont très blancs, mais ouais,
ils sont très blancs, ils sont très flics aussi.
Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a, le, bah, il y a une petite présence au
parce
sein de la
Rainbow. J'ai déjà entendu qu'il y avait au sein même des communautés LGBTQIA+, de la discrimination. Donc, c'est-à-dire que les blancs ont leur façon, eux, d'aborder leur homosexualité, de la présenter, de la célébrer, et que les noirs ne sont pas les bienvenus dans ces cercles-là ou dans ces fêtes-là. Et quand même, à la Rainbow, ou je ne sais pas où, il y avait des fêtes afro-queer, et c'était une majorité de blancs sur place qui ne permettait pas justement aux noirs d'entrer et à un noir qui est entré, puis il s'est fait traiter de charbon. Et donc
c'est pas vrai.
Oui, oui, oui.
C'est incroyable.
Là, je suis sciée, quoi.
Ouais, donc là aussi, il y a un rapport de domination, encore une fois.
Mais c'est clair que notre communauté n'est pas exemple de tout rapport de domination. Et
c'est,
doit,
c'est ce que je croyais, moi, au départ. Hein.
Ouais, mais
je
croyais que c'était un
monde de bisounours. Moi, j'étais là, ouh, tout le monde est bisounours, c'est tout le monde est de gauche.
Il y a le jeunisme aussi, je veux dire, une fois à un certain âge, t'es aussi éjecté parce que t'as plus... t'es moins consommable ou t'es moins attirant.
Oui, mais c'est ça aussi l'hypersexualisation de
peau,
des noirs.
Voilà, aussi. Aussi, ouais. Donc voilà, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est une communauté
et
qui n'est pas exemple de...
Entre personnes LGBT, il y a beaucoup de transphobie dans la communauté, alors qu'enfin on est là.
Et de biphobie aussi.
De biphobie énormément. De biphobie, voilà, il y a du validisme aussi. Enfin,
du quoi?
Du validisme. Donc le fait de. L'expliquer. C'est
de favoriser les personnes qui sont valides.
Voilà, c'est ça.
D'accord,
voilà,
ok. Ah, okay. Ouais. Attends, j'ai jamais entendu
moi non plus,
ça.
J'avais jamais
pourtant, je travaille dans le milieu du handicap.
Hein. Bah voilà, le validisme.
Ouais. Ok.
Je sais pas le définir, mais. Merci, Guillaume.
Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos.
C'est excellent.
Super intéressant pour nous.
Mais merci de nous avoir invités.
Avec plaisir.